Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de ZAD.
On veut pas que le ciel descende, des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Pilote sur ton crève, de faim, de froid, de tout, autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé à ce marqué de sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Bonsoir, il est 19h et des poussières, c'est vendredi, et vous êtes bien dans le Canu Info du vendredi sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et pour ce soir, un Canu Info très local. On va commencer par deux reportages. Le premier, c'est un retour sur le rassemblement qui a eu lieu mardi contre la loi de sécurité globale. Puis, on vous passera un reportage sur le rassemblement qui a eu lieu mercredi pour dénoncer le harcèlement sexuel et le sexisme au travail. Côté logement ensuite, on donnera la parole au collectif Solidarité Cusset. Et parce que la solidarité se joue aussi à l'international, on finira avec un entretien avec le comité Vincenzo Vecchi. Depuis le début du confinement, cette émission a été enregistrée tout au long de la semaine et finit d'être montée cet après-midi. Bonne écoute sur le 102.2.
Sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhônais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève.
On a dit les
interjoints sur le rassemblement
pour le droit à l'IVG qui a lieu
hier.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Je peux pas lever la main. Bah là, on n'a pas été, on est vraiment juste derrière, quoi. Là, on est vraiment juste derrière. C'est un truc orange. Hein.
C'est bon.
Oui.
David, tu penses qu'il y a combien de personnes, type là?
Ah, moi, je pense qu'il y a au moins 4000 personnes là. Grosse mobilisation. Hein. Alors, on est devant le palais de justice. On est le mardi 24 à 18h10 maintenant. Et on est plein. Et on est là pour montrer qu'on est debout contre cette loi qui est inadmissible et qui ne devrait jamais passer.
Qui est le dernier coup de taloche dans la gueule de la démocratie.
Le fait que les drones puissent nous identifier, je trouve que c'est complètement inadmissible.
Et la reconnaissance faciale d'une manière générale.
Puis l'atteinte à la liberté d'expression.
Que le fait de masquer les visages des policiers va porter préjudice à beaucoup de monde, notamment des victimes de violences policières qui pourraient se retrouver sans preuve.
Et que du coup, ça porte à interprétation des flics et de chacun, ça ne va pas et ça ne peut pas passer en état.
Police partout, justice partout, police partout.
tu vois les gens qui sont rassemblés ici, ils ne sont pas uniquement ici pour cette loi. Il y a beaucoup de revendications, il y a juste à lire les pancartes pour s'en rendre compte. T'as rétabli son l'ISF, respectons vraiment les mesures qui sont engagées par les différentes COP qui n'ont eu aucun effet. C'est un bric-à-brac d'initiatives, un bric-à-brac de revendications. Donc ouais, c'est ces rencontres-là en fait qui font germer des choses et que je pense que c'est important sur le combat dans le temps long en fait.
J'ai écrit sur ma pancarte « Abolir la police ». Parce qu'il y en a marre de proposer toujours des améliorations, des perfectionnements, des encadrements de la police.
Je reconnais votre voix, vous n'êtes pas Sissi de Mayday ?
Non, 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 c'est pas moi, moi c'est Jacques. Ah, pardon, j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle. Au revoir.
Moi j'ai 23 ans, je trouve qu'il est là depuis 5 ans, depuis le début de la loi travail. Enfin, en tout cas c'est depuis que moi j'ai commencé à sortir dans la rue. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de répression, on essaye de nous empêcher de manifester. C'est la merde. Je pense qu'il y a trop de gens qui sont flippés de sortir de chez eux parce qu'ils ont vu la violence policière qui augmentait de plus en plus en manif et du coup qui n'osent plus sortir en manif. Et ça c'est un vrai problème. Et depuis les gilets jaunes notamment.
Toi, t'as l'air d'avoir l'habitude d'aller en manif parce que c'est un truc que t'as appris en famille aussi.
C'est un truc qu'on m'a transmis parce que ma mère est toujours allée en manif. Je suis d'une famille de gauche, donc bien sûr ça fait partie de ma famille. Après, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas du tout cette culture-là au sein de leur famille et pourtant qui sont là aujourd'hui avec moi en manifestation.
T'as mal aux yeux?
Ah ouais, ça va.
Ouais, c'est blanc.
Vas-y, ma poule, vas-y, ma poule. Ah.
Merci.
Ouais. Oh bah écoute, on dansait tranquillement devant la fanfare et puis bah des gaz partout, hein, évidemment. Le classique quoi, hein, on a envie de dire.
Déteste la police, c'est tout le monde. 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 Déteste la police, c'est tout le monde.
Mercredi 25 novembre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un rassemblement était appelé devant le McDonald's de Charpennes pour dénoncer le harcèlement sexuel et le sexisme au travail. Les micros des meufs du Canu Info du lundi et du Canu Info du vendredi traînaient dans le rassemblement. Reportage.
Nous sommes le 25 novembre 2020. Nous en sommes à 87 féminicides. Nous honorons nos mortes. Mais nous devons aussi, et surtout, protéger les vivantes.
Des femmes, donc qui rassemblent pas mal d'associations féministes, syndicats et partis politiques qui ont décidé d'organiser pour le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, deux rassemblements. Il y en a eu un samedi et aujourd'hui c'était place Charpennes et plutôt pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles au travail.
Nous sommes rassemblés ce soir 25 novembre 2020 devant un McDo pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nous n'avons pas choisi de nous retrouver devant un McDo par hasard, sans stigmatiser celui-ci particulièrement. Des salariés de plusieurs restaurants de cette chaîne ont témoigné de ce qu'on leur faisait vivre. Je cite : souvent, quand t'es hôtesse, les managers hommes exigent clairement que tu portes la jupe, mais aussi que tu mettes du rouge à lèvres, que tu t'épiles les jambes, ou même que tu t'abstiennes de mettre un collant. Les jupes qu'on nous donne sont tellement serrées et coupées de sorte que quand on monte les escaliers, on voit tout ce qui se passe en dessous. Ouh ! Ces témoignages rappellent une fois de plus comment le corps des femmes est continuellement sexualisé. Depuis mars 2020, le collectif MacDroit s'est mobilisé pour obtenir que les managers des McDo arrêtent d'imposer le port de la jupe aux salariés féminines. Après plusieurs mois de pression, ils ont eu gain de cause, partiellement, puisqu'un recommandé a été adressé au restaurant d'Île-de-France pour expliquer que la jupe ne devait pas être imposée. À quand la généralisation dans tous les restos McDo de France ? Des enquêtes menées récemment par Street Press et Mediapart relatent d'autres témoignages accablants de sexisme, grossophobie et harcèlement dans cette entreprise. 78 employés ont brisé l'omerta. Sur ces 78 témoignages, 37 ont subi des harcèlements sexuels, 32 du harcèlement moral et 9 racontent des faits pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles. Celui-ci provient aussi bien des équipes que de la clientèle. Et celles qui le subissent sont rarement soutenues par leur direction. La jeunesse et la précarité des salariés rendent d'autant plus difficiles les exigences de revendication. L'exemple à ne pas suivre de cette entreprise est un exemple parmi tant d'autres. 80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 30% de harcèlement sexuel, 10 de viol ou tentative de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. 70% des victimes disent ne pas en avoir parlé à leur supérieur. Quand elles l'ont fait, 40% d'entre elles estiment que le règlement leur a été défavorable. Elles ont été mutées, placardisées, voire licenciées.
Donc moi je suis Sandrine, je suis membre de la commission exécutive de l'Union départementale CGT 69.
Ok, et du coup ce soir on est à un rassemblement féministe devant un McDo. Tu peux nous expliquer pourquoi ça se passe devant le McDo ?
Alors ce soir on est à un rassemblement initié par le collectif Droits des Femmes 69, dont fait partie la CGT. On est rassemblés devant un McDonald's parce que... Comme nous sommes sur la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, cette année, la CGT axe son travail, on va dire, sur justement les violences faites aux femmes dans le cadre du monde du travail. Donc on a choisi un McDonald's parce qu'il y a eu des enquêtes de fait cette année par différents journaux, entre autres Mediapart et Street Press, qui ont relaté donc des témoignages de salariées féminines au sein de différents restaurants de McDo. Évoquant effectivement des comportements sexistes, voire des agressions sexuelles pour certaines d'entre elles, et entre autres avec un collectif qui s'est mobilisé sur le sujet, qui s'appelle le collectif MacDroit, donc qui défend les salariés McDonald's, alors sûrement pas uniquement sur ce sujet-là, mais entre autres là-dessus. Donc dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, j'expliquais qu'il y avait le port de la jupe, par exemple, qui était obligatoire pour les salariées féminines dans un certain nombre de restaurants McDonald's. Et grâce à la mobilisation de ce collectif MacDroit, il a été demandé aux directeurs des McDonald's, en tout cas d'Île-de-France pour l'instant, d'arrêter d'obliger le port de la jupe. Voilà.
Okay. Tu sais s'ils ont d'autres revendications ?
Sans doute, mais là...
Et du coup, dans ton intervention, tu as parlé aussi de la Convention 190 de l'OIT. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, l'Organisation internationale du travail donc, rédige un certain nombre de textes qui peuvent s'appliquer ensuite aux États sur les conditions de travail et sur le monde du travail. Donc la Convention 190, c'est une convention qui porte sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail, que la France a signé en juin 2019. Mais pour qu'une convention internationale soit appliquée dans un pays, il faut qu'elle soit ratifiée. Donc c'est un engagement en fait que prend un État pour mettre en application cette convention. La simple signature ne suffit pas. Donc cette année, la CGT, avec d'autres organisations féministes et syndicats, initie des mouvements pour que cette convention, pour que le gouvernement français ratifie cette année cette convention et que donc la législation qui est inscrites dans cette convention puissent être appliquées au niveau de notre législation nationale. Puis les recommandations, moi celle qui m'a beaucoup marquée, c'est celle qui porte sur les violences conjugales qui peuvent avoir un impact sur le lieu de travail ou sur le travail des femmes. Et cette convention, elle recommande justement que les entreprises mettent en place des choses pour soutenir les femmes victimes de violences conjugales, entre autres ce qu'on a lu dans le texte, par exemple, la facilitation pour faire les démarches, donc des journées indemnisées pour pouvoir faire des démarches pour des dépôts de plaintes, certificats médicaux. Peut-être quand l'entreprise a un parc de logements, par exemple, mettre à disposition un logement pour que la femme puisse quitter son logement conjugal.
Voilà,
un certain nombre de choses comme ça.
Nos vies nous appartiennent. Contraception gratuite, livre appartement ou alors ça va péter. Tout est à nous.
Pour le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous dénonçons l'ensemble de ces violences. Violences conjugales, les violences dans le couple concernent près d'une femme sur 10. Elles vont de la violence psychologique au féminicide. Le nombre d'appels pour violences sur les lignes dédiées a explosé pendant le confinement. Depuis le début de l'année, 85 femmes ont été tuées par leur compagnon ou par leur ex. Mais aussi violences sexuelles. 3 ans après le début du mouvement MeToo, la parole se libère sur les viols et les agressions sexuelles, de nouvelles relations dans le milieu de la musique, du cinéma, de la pornographie. Mais les affaires Darmanin et Polanski montrent la résistance du patriarcat et la prégnance de la culture du viol. Et la justice, quant à elle, continue à requalifier des viols en délit d'agression sexuelle et pas en crime. Le cas de la jeune Julie Leriche, violée à l'adolescence par 20 pompiers de Paris, est le cruel symbole d'une justice qui refuse toujours de punir les agresseurs. Violences sexistes et sexuelles au travail. Elles sont encore trop taboues. Cette année, 2 enquêtes auprès des employés de McDonald's ont montré la fréquence des situations de harcèlement, d'agression sexuelle et de sexisme au quotidien dans l'entreprise. La France...
Allez-y.
Bonsoir à tous et à tous et à toutes. Je me présente le collectif 69 du sans-papiers du Lyon et je vais prendre la parole pour exprimer les femmes sans-papiers. Nous, femmes sans-papiers en France, en majorité des pays où la condition féminine est très dégradée. Notre existence sur le sol français n'est pas un luxe, mais une recherche d'un ailleurs meilleur. La première forme de violence que nous subissons est linguistique et verbale, réduite à des sans-papiers. Ce qualificatif renvoie non seulement à la régularité, l'égalité, mais en plus à des sujets dangereux et hors la loi. Nous dénonçons cette stigmatisation et nous voulons nous présenter comme des demandeuses de papiers. L'autre violence, forme de violence administrative. Cette situation nous expose dans le cas d'un contrôle policier à l'arrestation. L'humiliation, ce n'est pas la détention des centres de rétention, parfois même avec nos enfants. Enfermer quelqu'un injustement que d'avoir décidé d'exercer son droit de circuler librement dans l'espace mondial est la plus grande forme de discrimination est basée sur l'origine. Nous subissons aussi l'autre forme de violence, la violence institutionnelle. À défaut d'un titre de séjour, les femmes sans papiers n'ont jamais accès au marché de l'emploi tel qu'organisé par la loi, mais plutôt aux emplois, en majorité des cas non déclarés, avec des rouages d'exploitation et des abus. Pour les rares chanceuses qui réussissent à décrocher des postes stables, ce soit dans les services de la personne âgée, garde d'enfants, garde malade, soit
dont des petites entreprises comme la restauration, l'hôtellerie et la vente, sans que nous pouvons bénéficier de formations continues ou de valorisations de compétences. Nous sommes des salariés de second degré.
Bonsoir. Pour les femmes sans papier qui ont décroché une promesse d'embauche, la constitution d'un dossier pour la demande de la carte de séjour salarié, comme le précise la circulaire Valls, nous expose à une dépendance à l'égard de l'employeur, donc à une exploitation qui ne finit qu'au jour de l'obtention de la carte séjour, définitive encore conditionnée. La circulaire Valls limite l'accès au titre de séjour mention vie privée et familiale aux femmes sans papier, mères d'enfants scolarisées en France depuis au moins 3 ans et ou bien conjointes d'un Français ou résident. La législation migratoire subordonne les femmes à l'autre à laquelle elle doit être liée, sinon elle n'est pas bénéficiaire de ce type de carte de séjour. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la continuité de la vie commune avec le conjoint. Ceci entrave l'indépendance des femmes et favorise des abus, l'exploitation, les chantages, incapable pour se défendre en cas de violence et les expose suite au divorce ou décès à la clandestinité. Voilà. Nous, femmes sans papier, vivons en France depuis de longues années, avons tissé des liens et créé des réseaux de connaissances professionnelles, associatives, de voisinage et amicales, laissant entendre une évolution de notre statut relationnel. Mais à défaut de lien matrimonial et maternel, la circulaire Valls nous exclut du droit à la carte de séjour mention vie privée et familiale.
3, 4. Il fait encore nuit, elle s'en refredonne. Le bruit de nos pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elle s'en refredonne. Le bruit de nos pas dans la rue résonne. Une ville à l'autre, on est solidaire. Ce n'est qu'un début, on en est très fier. Une ville à l'autre, on est solidaire. Ce n'est qu'un début, on en est très fier. Écoutez, bruit de nos sabots. Écoutez, gronder notre colère. Écoutez, bruit de nos sabots. On en a marre, on se met en grève. Travail logistique, travail domestique. Toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Travail logistique, travail domestique. Toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Chez Complot Service, c'est un vrai supplice. Nous laisse à la botte du capitalisme. Chez Complot Service, c'est un vrai supplice. Nous laisse à la botte du capitalisme. Écoutez, bruit de nos sabots. Écoutez, gronder notre colère. Écoutez, bruit de nos sabots. On en a marre, on se met en grève. Du matin au soir, nettoie les latrines. Pendant que les patrons se boivent des bibines. Du matin au soir, nettoie les latrines. Pendant que les patrons se boivent des bibines. Ton partiel forcé, salaire de misère. Et le plafond de verre reste un grand mystère. Ton partiel forcé, salaire de misère. Et le plafond de verre reste un grand mystère. Écoutez, bruit de nos sabots. Écoutez, gronder notre colère. Écoutez, bruit de nos sabots. On en a marre, on se met en grève. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Et pourtant certains s'en lèchent les babines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Et pourtant certains s'en lèchent les babines. Tous les 2-3 jours un homme tue une femme. Les médias complices atténuent le drame. Tous les 2-3 jours un homme tue une femme. Les médias complices atténuent le drame. Écoutez, bruit de nos sabots. Écoutez, gronder notre colère. Écoutez, bruit de nos sabots. On en a marre, on se met en grève. L'administration est un vrai calvaire pour les personnes trans et les non-binaires. L'administration est un vrai calvaire pour les personnes trans et les non-binaires. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot. Le plus vieux métier, mais sans droits sociaux. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot. Le plus vieux métier, mais sans droits sociaux. Écoute.
Si je veux pas d'enfant, pas besoin de justifier. La maternité est censée nous combler. Si je veux pas d'enfant, pas besoin de justifier. Avec plusieurs milliers, on sort point levé. Avec nos sabots, ils ont les pavés. Avec plusieurs milliers, on sort point levé. Avec nos sabots, ils ont les pavés. Écoutez, revendication, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez, revendication, ce sera la dernière sommation. Écoutez, revendication, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez, revendication, ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation!
Les violences sexistes, elles prennent de multiples formes et concernent tous les aspects de la vie. Vêtements et jouets sexistes, harcèlement dans l'espace public, sexisme ordinaire, cyberharcèlement et j'en passe. Depuis des années, des campagnes de cyberharcèlement avec menaces de viol et de mort visent particulièrement les militantes féministes. Début novembre, une conférence en ligne sur les 50 ans du MLF a été la cible d'un groupe d'hommes sexistes, racistes et antisémites venant du forum jeuxvideo.com. Ouh ! Les violences de genre s'inscrivent dans un contexte social et culturel où le corps des femmes est la cible de multiples injonctions. Cette année, nous avons vu des collégiennes et lycéennes accusées de perturber les garçons à part leur tenue insuffisamment républicaine. Nous avons vu également des femmes insultées, agressées et cyberharcelées parce qu'elles portaient un voile. Les violences médicales, gynécologiques et obstétriques peuvent mêler sexisme, lesbophobie et grossophobie, transphobie, validisme et racisme, et j'en passe. Les atteintes aux droits des femmes à disposer de leur corps participent à ces violences. Régression du droit à l'IVG en Pologne, aux États-Unis, en Hongrie, stérilisation forcée de femmes ouïghours en Chine, de migrantes latino-américaines aux États-Unis. En France, la loi va ouvrir l'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes, mais maintient de la discrimination vers les personnes trans. Nous souhaitons faire entendre nos voix et que ces violences cessent.
Ok, alors est-ce que tu veux te présenter ?
Alors, je m'appelle Marion, je suis au planning familial et au collectif droits des femmes.
Ok. Alors peut-être dans les prises de parole tout à l'heure, on a pas mal entendu parler d'une Julie. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ?
Julie, c'est une jeune fille qui a 14 ans en fait. Suite à des appels de pompiers parce qu'elle avait des problèmes de santé, en fait, a été violée à plusieurs reprises par un certain nombre de pompiers de Paris. Et en gros, il n'a pas été qualifié de viol, mais d'atteinte sexuelle en considérant qu'elle était consentante. Ça fait partie d'un des procès où les associations féministes se sont énormément mobilisées parce que pour le coup, un, elle était mineure. Deux, c'était des viols collectifs à plusieurs reprises et c'était inadmissible cette requalification de la justice.
D'accord, et ça c'est une affaire récente ?
Alors, elle a commencé à être publique il y a un an parce que la maman en fait a publié le calvaire de Julie et du coup il y avait le procès il y a à peine un mois.
D'accord, et on a une date pour le rendu
ou... Eh bien ça a été pour l'instant requalifié en atteinte sexuelle donc ça se passera pas aux assises. Et du coup, les pompiers ont été relaxés.
D'accord.
Et la prochaine étape, c'est un appel ou quelque chose comme ça mais...
Alors, a priori, la mère et la famille veulent faire appel, justement pour que ce soit requalifié.
Et donc, une autre question, un autre sujet qui est pas mal ressorti dans les prises de parole, c'est cette histoire de semi-privatisation ou privatisation du 3919.
Donc le 3919, c'est un numéro pour toutes les violences. Donc il est anonyme, gratuit. Il apparaît pas sur les factures, on le sait pas assez. Du coup, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que du coup, si un auteur contrôle la facture, eh ben, on verra pas qu'on a appelé le 3919. Il est géré par une association féministe depuis de nombreuses années et c'est un premier appel, une première écoute dont peuvent bénéficier les femmes victimes de violences. Et surtout, c'est des relais, c'est-à-dire que si les femmes qui appellent veulent des relais d'associations locales, en fait, le 3919 donne les coordonnées d'associations locales. Et il se trouve que le gouvernement a décidé de le privatiser en ouvrant au marché public. C'est-à-dire que de mettre à la concurrence cette association spécialisée dans les violences faites aux femmes et féministes pour que n'importe qui puisse récupérer ce numéro et du coup être absolument moins pertinent et moins féministe pour répondre aux femmes.
Oui, parce que c'est, donc c'est quoi le risque? Comment ça se passerait s'il y avait des appels à projets?
Bah, en gros, du coup, au départ, l'association en fait était financée avec des subventions pour gérer le numéro 3919. Là, maintenant, elles vont devoir monter un gros dossier de marché public qui sont des gros dossiers pour les associations parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Par contre, il y a plein d'autres boîtes qui ont compris qu'on pouvait se faire de l'argent sur les violences faites aux femmes, qui ont, eux, les moyens logistiques pour répondre aux appels au marché public, qui vont pouvoir répondre et obtenir le marché.
C'est ça. Donc, le risque, c'est que le 3919, ça devienne maintenant quelque chose pour se faire de l'argent, en fait.
Exactement.
Si nous sommes toutes et tous rassemblés, c'est parce que nous ne voulons plus d'une société qui considère encore les femmes comme des subalternes, des faire-valoir, des esclaves et des objets. C'est parce que nous ne voulons plus que les violences sexuelles se perpétuent, soient négligées ou restent impunies. C'est parce que nous ne voulons plus être dépossédés de notre corps, être sexualisés ou être réduites à une image stéréotypée, ayant pour seul but de vendre des burgers, des prêt-à-porter et des voitures. Si nous sommes aujourd'hui, ici, toutes et tous réunis, c'est parce que nous voulons une réelle politique d'égalité qui mettra fin à ces violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Une politique qui considérera vraiment les personnes indépendamment de leur genre. Une politique qui sonnera enfin le glas à la hiérarchisation patriarcale dans notre société.
Au final, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées et ça a même fini sur une boule.
Chaque jour, les violences sexistes font de nouvelles victimes en France et dans le monde. Il n'y a plus de temps à perdre.
Moi, je trouve que pour selon le contexte, le mois de novembre, qui n'est pas forcément un mois très frais, c'est le deuxième rassemblement qu'on fait, là, le collectif Droits des Femmes, puisqu'on en a déjà fait un samedi, place Bellecour. Et je trouve que c'est quand même une chouette réussite, il y a quand même du monde. Il y a en tout cas beaucoup de dynamisme et moi, je suis très heureuse et confiante parce que je vois que la relève est assurée, quoi.
Les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la même question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Vous l'avez sans doute remarqué, mais depuis le début de la trêve hivernale, le Canu Info du vendredi s'est emparé de la question du logement. Alors on avait très envie d'aller se rendre au nouveau squat qui a ouvert à Cusset, mais au final, on n'a pas encore réussi. Alors, En attendant que nos micros aillent traîner par là-bas, les copains et les copines nous ont envoyé un petit message qu'on va vous lire. Nous sommes un collectif de quartier réunissant des habitants et des habitantes de Cusset. Depuis le premier confinement, nous avons décidé de nous organiser collectivement face à la situation sanitaire et sociale afin de proposer une solidarité concrète et populaire avec les plus précaires, étudiants et étudiantes, chômeurs et chômeuses, sans-papiers, travailleuses et travailleurs, familles nombreuses, retraités, etc. Durant 4 mois, nous avons tenté d'apporter notre contribution pour parer à l'urgence alimentaire et sanitaire par la distribution de denrées alimentaires et de produits d'hygiène sous la forme d'un marché gratuit avec le soutien de plusieurs associations villeurbanaises et d'autres collectifs. Sur ces 4 mois, 2 jours par semaine, nous tenions ces distributions et c'est plus de 80 familles et personnes isolées que nous aidions. Nous nous sommes remobilisés au début de ce deuxième confinement et avons décidé de réquisitionner un bâtiment vide depuis plusieurs années, situé au 6 rue de l'Égalité, à Villeurbanne. Cette réquisition s'inscrit pleinement dans la continuité de nos actions antérieures, tout en permettant d'élargir l'éventail de nos activités. Elle fait également suite à une demande officielle de local par le collectif auprès de la mairie de Villeurbanne en septembre, dont la réponse qui nous a été faite n'a pas été satisfaisante au vu des conditions que nous requérions. Dans la partie habitable, ce lieu hébergera des personnes ayant besoin d'un logement. Au rez-de-chaussée, nous aménagerons le local du collectif Solidarité Cusset, ainsi que des espaces dédiés aux activités répondant aux besoins réels du quartier. Soutien scolaire, outils pour pallier la fracture numérique, aide administrative aux plus isolés, lieux d'accueil, cantines solidaires, etc. Face à la crise économique majeure et aux attaques liberticides menées par le gouvernement, nous voulons ouvrir un lieu qui soit au service de notre quartier et ancré dans celui-ci, où chacune et chacun puisse se sentir à l'aise. Nous voulons un espace ouvert, où les solidarités se nouent au fil des initiatives collectives et où les discriminations et l'autoritarisme n'auront pas leur place. Permettre l'existence d'un tel lieu, c'est déjà résister aux politiques d'appauvrissement en cours. Nous vous proposons donc de venir nous rencontrer autour d'un goûter, samedi et dimanche, de 14h à 18h, au 6 rue de l'Égalité, à Villeurbanne, et discuter avec nous de ce projet de lieu collectif. Pendant ces 2 jours, vous pouvez apporter un soutien matériel au lieu. Pour nous installer, nous avons besoin de meubles, électroménagers, ustensiles de cuisine, etc. Nous avons également toujours besoin de dons alimentaires et de produits d'hygiène. Nous ne prenons pas de dons de vêtements pour l'instant. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur la page Facebook Collectif Solidarité Cusset ou encore écrire au collectif à collectif-6-solidarité-cusset@riseup.net. collectif-solidarité-cusset@riseup.net. Et ben oui, on espère vous voir nombreux et nombreuses ce week-end pour organiser la solidarité de quartier à Cusset.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Allô.
Allô, tu es un des membres du collectif qui soutient Vincenzo Vecchi face à la menace d'extradition qui est la sienne, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, oui. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue au Canu Info. Et on a donc déjà parlé à plusieurs reprises de ces problèmes qui le touchent. Je rappellerai juste donc rapidement, et tu me reprends si je dis des bêtises, Vincenzo
oui.
a été condamné par la justice italienne qui s'est appuyée sur des lois qui avaient été promulguées en Italie à l'époque fasciste, des lois des années 1930, parce que Vincenzo aurait participé, enfin a participé plutôt, ça s'est avéré, aux manifestations à Gênes en 2001 contre
oui.
le G7 à l'époque, ou c'était le G7
oui, mais...
Voilà, et puis à une autre manifestation, quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, une manifestation antifasciste à Milan, et sa participation à ces deux manifestations où il y a eu de la casse l'ont amené à être condamné par la justice italienne, alors même que la justice italienne n'a aucune preuve qu'il ait, lui, participé à ces moments, disons, offensifs. Tout ça l'a amené, dans un premier temps, à purger une petite peine de prison en Italie. Il est ensuite sorti, et donc c'était la peine de prison relative au mouvement à Gênes. Et puis ensuite, il est allé en France parce qu'il avait peur de subir une seconde peine de prison. Il est resté une petite dizaine d'années en France, d'abord à Paris, puis ensuite en Bretagne, où il s'est parfaitement, le mot est pas joli, mais intégré à la vie locale, il travaillait, etc., en Bretagne. Et il y a 2 ans, peut-être, la police française, qui avait un mandat d'arrêt européen, l'a retrouvé, l'a arrêté, l'a emmené en garde à vue, puis en préventive à Rennes. Et donc, là-dessus, vous vous êtes formé en tant que comité pour soutenir Vincenzo Vecchi, de façon à ce qu'il ne soit pas extradé, comme avaient pu l'être d'autres ressortissants politiques, on pense par exemple à Battisti, à ce qu'il ne soit pas extradé en Italie pour qu'il y purge là-bas 10 ans de prison, puisqu'il a été condamné à 10 ans de prison en Italie. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Alors c'est 12 ans et demi même au total.
D'accord.
Auquel il a été condamné en Italie.
L'actualité de tout ça, c'est donc qu'il y a 2 semaines, vous vous étiez pourvu auprès du tribunal d'Angers pour faire annuler l'extradition. Peut-être que là, il y a des détails que j'ai pas. Dans un premier temps, le délibéré du tribunal était favorable à Vincenzo Vecchi, enfin favorable, c'est-à-dire qu'on...
Plutôt favorable, oui.
Plutôt favorable, pas complètement, parce qu'il se devait quand même de purger une peine de prison qui pouvait être aménagée.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous étiez plutôt satisfait de ce résultat, lui aussi sans doute. Et quelques heures plus tard, on a appris que le procureur de la République se pourvoyait en cassation, c'est-à-dire qu'il voulait faire annuler cette décision du tribunal d'Amiens. Alors, maintenant mes questions. Pourquoi, à votre avis, le procureur se pourvoit en cassation, et qu'est-ce qu'il a sous la main pour se pourvoir en cassation ?
Alors, le pourquoi, on ne sait pas vraiment. En fait, dans notre analyse, nous, on pense qu'au niveau juridique, on a gagné. Ça fait 2 fois que 2 cours d'appel nous donnent raison. Et donc, nous, on estime qu'au niveau légal, au niveau justice, c'est pas rien que 2 cours aient bien dit que ces 2 mandats d'arrêt européens ne tenaient pas. Et pourtant, le procureur, donc, va en cassation. Alors ça, c'est une interrogation de notre part. Et donc, c'était effectivement un sujet juridique, mais aujourd'hui, on est sur un sujet politique, voire diplomatique. Enfin, l'explication qu'on trouve à ça, c'est que histoire politique, voire diplomatique entre 2 pays. C'est assez complexe hein, comme sujet, mais sur l'aspect juridique, je pense qu'on a vraiment soulevé tous les moyens qui étaient possibles au niveau de la défense. Et d'ailleurs, ces moyens ont été entendus par les cours. Donc, c'est assez frustrant et c'est vrai qu'à cette heure-ci, on est un peu dépité parce que, voilà, quand 2 cours d'appel nous donnent raison et que systématiquement le procureur, le ministère public va en cassation, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quoi.
Ouais. Donc, juste pour... Excuse-moi de te couper. Juste pour revenir là-dessus, votre dossier, vous, en tant que défense, c'était de montrer les dossiers qui étaient montés justement par la police et la justice italienne étaient vides, qu'il n'y avait rien contre eux.
Alors, ils étaient vides, voire faux. Celui de Milan était complètement faux, en fait. Il n'avait aucune raison d'exister parce qu'il correspondait effectivement à une peine qu'il avait faite concernant une manif antifasciste. Beaucoup de gens avaient été nassés, en fait, et il s'est avéré qu'il avait déjà purgé cette peine. Donc ce mandat d'arrêt européen n'aurait jamais dû exister, c'est un faux, hein. On peut considérer que c'est un faux. Mais le problème, c'est que, bon, la Cour de Rennes l'a reconnu et l'a donc mis de côté, a dit qu'il n'était pas recevable. Par contre, le principe du mandat d'arrêt européen fait qu'il court toujours dans le reste de l'Europe, dans les autres pays européens. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être faire un tout petit point sur le mandat d'arrêt européen. C'est pas très compliqué, en fait. Ce mandat d'arrêt européen, en fait, a été élaboré dans l'espace Schengen, donc au niveau de l'Europe, pour faciliter, en fait, les transactions de prisonniers, de terroristes, de criminels. Donc tout ça servait à fluidifier en fait les échanges entre justice européenne en Europe. Et donc il y a deux cas possibles. Soit qu'on rentre dans, on va dire, dans les 32 cas. Les 32 cas, c'est des cas de criminalité, extorsion de fonds, terrorisme, enfin vraiment des cas, on va dire, plutôt criminels. Et si on ne rentre pas dans ces cas-là, ce qui est le cas de Vincenzo Vecchi, donc là, c'est une procédure administrative, mais il y a un droit à la défense, chose qui n'existe pas dans les 32 cas dont je vous parlais juste avant. Donc, on est bien dans ce cadre-là, dans le droit à la défense de Vincenzo Vecchi, et c'est là-dessus que nous, au comité de soutien, avons agi, donc pour déjà trouver la preuve que le mandat d'arrêt européen de Milan n'avait aucune raison d'être parce que la peine avait été effectuée. C'est nous, comité de soutien, qui avons trouvé ces éléments-là. Puis, concernant Gênes, alors le dossier était très mal renseigné. Il manquait la cassation de 2009 du tribunal de cassation italien. C'était quelque chose de... Il était très incomplet. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup battu. Mais aujourd'hui, on en est à un autre stade. Ça veut dire que donc le procureur décide d'aller en cassation, malgré ses deux victoires. Et alors, lui, il avance une notion. Alors, je reviens légèrement en arrière. Vincenzo Vecchi, en fait, a été donc inculpé à 12 ans et demi de prison. Alors, en Italie, c'est un peu différent qu'en France. En France, quand on est jugé, on a une seule peine regroupant tous les délits. En Italie, il fractionne cette peine. Donc, il y avait 10 ans pour dévastation et saccage. Ça, c'est le gros de la peine. Puis, il y avait 9 mois, 1 an et 9 mois pour d'autres faits mineurs. Par contre, la grosse peine, c'est 10 ans pour saccage et dévastation. Or, donc le tribunal d'Angers a reconnu que, en fait, saccage et dévastation n'existe pas dans le droit français, n'existait pas en 2001, et donc on parle de double incrimination. Il n'y avait pas d'équivalent en France à l'époque des faits en 2001 en Italie. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que l'Italie a donc, comme vous le disiez, mis en avant une vieille loi qui date de Mussolini, de 1930, la loi Rocco, et qui permet donc d'emprisonner les gens entre 8 et 15 ans de prison pour saccage et dévastation.
S'ils ont participé à une manifestation où il y a eu de la casse.
Ils ont concouru moralement à une manifestation où il y a eu de la casse.
Si leur présence est attestée. Et on dira d'ailleurs au passage, excusez-moi de vous couper, que c'est ce que vous disiez, hein, si... les faits avaient été perpétrés après 2015 ou 2016 et que la loi anticasseur française était passée, c'était pour le coup un jugement qui aurait été différent, la manière dont il l'aurait rendu, le tribunal d'Angers l'aurait rendu.
Effectivement, il y aurait eu une forme d'équivalence en France, mais par contre, la peine restait quand même disproportionnée parce que même en France, même avec la loi anticasseur, on n'a pas des peines de prison entre 8 et 15 ans.
Oui, oui.
Donc, il y a quand même une grosse différence.
Oui, oui. Mais tout ça pour dire quand même que cette loi anticasseur, elle est quand même assez proche de la loi Rocco, qui est une loi fasciste italienne.
Ah bah, effectivement, on tend vers ça, vers la criminalisation des manifestations. Parce qu'il faut savoir que Gênes, quand même, c'était... Effectivement, on a fait état à un moment de 10 000 émeutiers à Gênes. Mmh. Et au final, ils ont donc arrêté 25 personnes et ils en ont gardé 10, ceux qu'on appelle les 10 de Gênes, qui ont pris plus de 100 ans de prison à eux 10. Donc, je reviens un peu à mon histoire de procureur. Donc, effectivement, il a perdu à Angers sur cette notion de saccage et dévastation, ce qui est très bien, ce qui est logique et rassurant par rapport à la justice française. Et du coup, lui essaie de prouver que les actions de Vincenzo ont été organisées en bande organisée. Alors, ça, c'est complètement hallucinant, parce que même l'Italie n'a pas retenu cette notion de bande organisée. Et le procureur français, lui, va sur cette incrimination en bande organisée, alors que même dans le récit italien, ça n'existe pas. Et pourquoi ? Eh bien, le fait d'être en bande organisée rentre dans les 32 cas dont je vous ai parlé juste avant, donc des cas d'ordre, on va dire, criminel, terroriste, et ça permet donc au procureur d'orienter différemment le mandat d'arrêt européen. Il va même plus loin que ce que préconise l'Italie, que ce que avait décidé l'Italie, en fait. Parce que la bande organisée n'a pas été retenue par les tribunaux italiens. Et il se base sur des vidéos qui auraient été récoltées de préparation de cette émeute. Or, nous, comité de soutien, on a réussi à se procurer ces vidéos, et c'est carrément hallucinant. C'est une réunion qui a lieu dans un lieu qui s'appelle la crèche, qui a été prêtée par la ville de Gênes aux manifestants, pour organiser leur manif, tout simplement. Alors on voit des gens assis dans l'herbe qui discutent de la manif, de comment ils vont manifester. Enfin, c'est une réunion classique de préparation de manif. Voilà, et le procureur donc, d'Angers s'appuie là-dessus pour dire que Vincenzo Vecchi a agi en bande organisée. Donc c'est ce qu'on dénonce en ce moment, parce que c'est, alors le sujet est kafkaïen depuis le début, mais là on atteint des paroxysmes, ça devient carrément complexe, et on ne comprend pas la position du procureur, si ce n'est les relations politiques et diplomatiques entre la France et l'Italie. On n'arrive pas à voir d'autre chose dans cette volonté de vraiment l'extrader en Italie à tout prix. Quoi.
Et alors ça avait... On pouvait voir vers quoi ça tendait à l'époque de Salvini en Italie, à l'époque où il était au ministère de l'Intérieur. Là, ça apparaît peut-être un peu plus flou, non?
Ah ben, c'est carrément flou pour nous, parce qu'effectivement, le mandat d'arrêt avait été réactivé au moment de Salvini à l'Intérieur. Ce qui pouvait s'entendre, Salvini était clairement quelqu'un, on va dire, situé à l'extrême droite, et Vincenzo connu comme un antifasciste.
Voilà, il s'était déjà fait, il s'était félicité de récupérer Battisti, qui avait été extradé du Brésil, on se rappelle de ça.
Battisti, c'est quand même différent, parce que lui, il rentrait dans les 32 cas, justement.
Oui, non, mais je veux dire,
Salvini... Vincenzo est un manifestant.
Ouais.
Mais effectivement, on peut faire le rapprochement entre ces deux affaires, mais même malgré qu'elles soient très différentes.
Et donc là, on en est où côté défense? Quels sont les prochains rendez-vous et qu'est-ce que vous attendez de ces prochains rendez-vous?
Alors, la cassation a donc été fixée depuis hier ou avant-hier. Donc, on sait aujourd'hui que ça va avoir lieu le 15 décembre à Paris. Donc, ils vont étudier donc cette demande du procureur qui donc refuse le jugement d'Angers. Mais nous, on a fait donc, Vincenzo Vecchi, à travers ses avocats, a fait aussi une cassation, ce qu'on appelle une cassation incidente. Ça veut dire qu'il se pourvoit aussi en cassation. C'est une façon que la Cour de cassation vérifie tous les moyens qui avaient été posés par la défense. Parce que s'il n'y a que le procureur qui va en cassation, on va s'atteler seulement à la double incrimination, point sur lequel on a gagné à Angers. Mais par contre, le fait que Vincenzo Vecchi se pourvoit également en cassation, ça permet de revisiter tous les moyens que la défense avait proposé au tribunal. Donc ça permet quand même de revoir l'affaire dans son ensemble et on espère de valider les failles qui ont été déjà prouvées à deux reprises.
Est-ce que à l'issue de ce jugement, il peut y avoir à nouveau des rebondissements et des cassations?
Alors c'est pas très clair et c'est très complexe, mais effectivement, on peut même retourner sur une troisième cour d'appel. Alors, il y a différents scénarios possibles, je ne vais pas vous les détailler ici parce que c'est très complexe en droit, mais il est même possible qu'on retourne sur une nouvelle cour d'appel pour juger une troisième fois Vincenzo Vecchi. Alors ça, c'est un des scénarios, hein. C'est pas sûr du tout, mais plusieurs scénarios sont envisageables et c'est assez complexe. Hein. Je vous avoue qu'on a beaucoup progressé en termes de droit, tous au niveau du comité de soutien, mais là, on va devenir des vrais spécialistes au bout de l'affaire. Ça fait 16 mois qu'on travaille là-dessus. C'est épuisant. Et on arrive encore à une nouvelle phase qu'on découvre en tant que citoyen. Et voilà, nous, on continue à défendre notre ami coûte que coûte, parce que c'est insupportable pour lui. S'il est ramené en Italie, c'est une manifestation qui a eu lieu en 2001. Il va sortir en 2033. Enfin, ouais. C'est vraiment incroyable.
Évidemment. Une dernière question peut-être, il va comment aujourd'hui Vincenzo et il est où?
Enfin, il est en CDI, il travaille pour une entreprise d'éco-construction, mais il va pas bien, il a cette épée de Damoclès depuis 12 ans au-dessus de la tête, là ça continue, et donc c'est vraiment l'ascenseur émotionnel quoi, il est libéré, puis il est recondamné, puis il est libéré, enfin c'est impossible pour lui. Il ne peut pas se projeter sur des projets, il ne peut pas croiser sa famille, voir sa fille. Enfin, il est coupé de tout ce monde-là depuis plus de 10 ans et ça continue. Enfin, c'est infernal pour lui, quoi. Et avant tout, effectivement, on ne dit pas qu'il est innocent, hein, il a participé à une manif, il était présent lors des émeutes. Mais est-ce que tout ça mérite
d'être ne serait-ce que condamné, hein. Enfin, on peut,
Pardon ?
Mais ne serait-ce que d'être condamné, on peut participer à des manifestations où il y a des émeutes et ne rien
Ça nous fait peur à tous parce que tous on a eu l'occasion de participer à des manifestations. manif, c'est carrément on s'attaque à les libertés individuelles, aux droits de l'homme, aux droits de manifester. Enfin, si c'est ça notre futur européen, ça pose de vraies questions au niveau juridique. C'est pour ça que nous, on tient coûte que coûte à le défendre. Et puis aujourd'hui, son cas est carrément emblématique pour le droit, pour l'accès à la justice, tout simplement. Là, il se trouve qu'on était tout un comité, qu'on a réussi à se remuer, à trouver différents éléments, à trouver de l'argent. Aujourd'hui, on en est à plus de 30 000 euros dans cette défense. Imaginez quelqu'un d'isolé qui n'aurait pas un groupe d'amis autour de lui, mais c'est perdu d'avance, quoi. C'est vraiment... la justice devrait être accessible à tous. Et là, clairement, nous, on a réussi à accéder et à aller au bout de la démarche parce qu'on a mis les moyens qu'on a eu. On avait du monde derrière, on a mis des moyens financiers. Et quelqu'un d'isolé, mais il a perdu d'avance. Enfin, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou, toute cette histoire.
Mmh. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et puis, on se tient au courant. Vous nous rappellerez à Radio Canu pour les délibérés du 15 décembre, c'est bien ça ?
Le 15 décembre, oui, tout à fait. Ben, nous, on remercie bien toutes les radios qui nous accompagnent parce que c'est très dur à... communiquer sur ce sujet et merci à vous de nous permettre justement de communiquer sur ce sujet. Merci beaucoup.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda !
Et oui, même en période de confinement, il y a un agenda dans le Canu Info du vendredi. Eh bien, on vous rappelle l'invitation du collectif Solidarité Cusset à vous rendre 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne demain samedi et dimanche de 14h à 18h pour les rencontrer et organiser la solidarité de quartier. Demain, c'est aussi un peu le temps des manifs. Deux manifs pour l'instant annoncées, et ça va être difficile de choisir parce qu'elles sont annoncées au même moment demain. La première, c'est la manifestation en soutien aux prisonniers et aux prisonnières du centre de rétention administrative de Lyon. Et la manifestation est appelée à 14h. Elle va partir de devant Forum Réfugiés 326 rue Garibaldi pour se rendre à la préfecture. Et la deuxième manif, c'est une manif contre la loi Sécurité Globale. Et le rendez-vous est donné à 14h, place des Terreaux. Le plus dur va évidemment être de choisir, mais dans tous les cas, bonne manif demain.
Canu Info du vendredi.
Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais
savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Eh ben Margot, aujourd'hui, ACAB, ça veut dire arrêtons les conneries, allumons des bûchers. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info du vendredi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, Noise Pollution, une émission de blues.